dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver comme chaque semaine sur France Bleu. Pendant une demi-heure, on va voyager dans le temps, se télétransporter, revivre des moments qui ont compté dans la vie de notre invité. Acteur, réalisateur et scénariste, il est en ce moment au Théâtre Libre. C'est un vrai succès la semaine dernière pour la reprise Standing Ovation, un public conquis. Plaidoirie, je vous demande l'impossible. C'est en ce moment à Paris le 7 octobre à la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour Richard Berry.
Bonjour.
Alors j'ai juste un mot, bravo.
Merci.
C'est bon, c'est fini, on y va.
Ok, d'accord, ça va.
Pendant,
ça me suffit d'ailleurs.
Pendant une heure et demie, vous nous faites oublier qu'on est dans un théâtre, on devient même juré dans un tribunal. Au total, vous portez 5 plaidoiries, 5 affaires emblématiques qui font avancer les lois de notre pays. Gisèle Halimi, le droit à l'avortement. Déni de grossesse, Véronique Courgeot, l'affaire des bébés congelés. Le procès Ranucci contre la peine de mort. L'affaire de Clichy-sous-Bois à l'origine des émeutes des banlieues avec Ziad Ebouna, mort électrocuté en voulant échapper à un contrôle de police. Et procès Papon avec le crime contre l'humanité. Pourquoi ces 5 procès précisément ?
Parce qu'ils sont quand même assez emblématiques de la société française. On peut faire comme ça une espèce d'analyse de certains problèmes qu'a traversé la France ces dernières années. On pourrait en rajouter d'autres, ce que je vais faire d'ailleurs au cours des mois qui vont venir. J'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs fois la plaidoirie de le maire dans l'affaire Colonna, quand il plaide et qui défend le préfet Erignac. Et pourquoi pas peut-être les caricatures de Mahomet, la plaidoirie de Malka, quand il défend Charlie Hebdo, quoi. Il faut aussi qu'il y ait à la clé une plaidoirie qui soit assez forte. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, on avait décidé de faire 2 plaidoiries dans l'affaire Papon. La plaidoirie donc de Michel Zaoui qui défendait les parties civiles, donc les victimes. Et puis, la plaidoirie de Varro qui défendait Papon. Et il se trouve qu'à un moment donné, quand j'ai appris, que j'ai commencé à travailler ces textes-là, que j'avais déjà fait celle de Michel Zaoui qui défendait les parties civiles, j'ai commencé à travailler pendant près de un mois celle de Varro. Et il se trouve que, même si le sujet est important, et c'est pas le fait qu'il défendait un coupable, c'est le fait que tout d'un coup, la plaidoirie, elle était moins intéressante, moins forte, moins percutante. Et je pense que pour le spectateur, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me dis, c'est comme si tout d'un coup, on avait un acte ou deux formidables, et puis tout d'un coup, hop, ça retombe. C'est pas parce que l'idée, l'exercice de style est intéressant qu'il faut absolument le faire. Il faut aussi que les plaidoiries soient fortes. Alors, si tout d'un coup, c'est un coup d'épée dans l'eau,
ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Il n'y a pas d'enregistrement des grands procès. Comment Mathieu Aharon a reconstitué ses plaidoiries ?
Soit il est allé voir directement les avocats qui avaient gardé
des notes,
des traces, qui les avaient écrites, même pour certains. Il y en a même un, je ne dirais pas qui, mais qui lui a dit « Ah, oui, cette plaidoirie, c'était il y a 20 ans, hein. Asseyez-vous, je vais vous la refaire. » Et il lui a refait la plaidoirie quasiment mot pour mot. Il y a d'autres plaidoiries, comme celle par exemple d'Henri Leclerc dans l'affaire Courgeot, qui avait été entièrement prise en sténo. Et donc, bah, il s'est adressé à cette femme, et il a repris donc la sténo de cette sténotypiste. Il a réussi à reconstituer ses plaidoiries avec l'aide des avocats, et par exemple, Gisèle Halimi, avec laquelle j'ai été le plus en contact avant d'ailleurs, m'avait demandé le texte. Et elle voulait savoir si je les avais pas transformés, trahis, détournés.
Et alors ?
Et bah, elle a trouvé ça formidable. Puis quand elle est venue voir le spectacle, elle a été emballée. Voilà.
Mission réussie finalement.
Oui, mission réussie.
Après cet exercice, qu'est-ce qui selon vous peut être indéfendable ?
Alors, je pense que le principe de notre société fait que rien n'est indéfendable. Moralement, il y a des choses qui sont indéfendables. Mais d'un point de vue de la justice, tout le monde doit être défendu.
C'est ce qu'a expliqué Maître Vergès ou Maître Éric Dupond-Moretti ou de grands avocats, finalement.
Bien sûr. Bien sûr. Après, il faut savoir aussi si l'avocat a les épaules, la capacité de pouvoir endosser, à un moment donné, les exactions, les crimes ou les comportements de certaines personnes.
Est-ce qu'en définitive, on peut dire que la loi finit par rendre justice ?
Je pense qu'elle tend à rendre justice. En tous les cas, la loi, là je suis pas aussi sûr que ça de ce résumé, les avocats tendent à éclairer les faits d'une façon différente, à apporter un autre regard, qui va faire en sorte que, à un moment donné, la loi peut évoluer, se transformer ou même s'inventer, se créer autour d'une plaidoirie. J'en veux pour exemple celle de Gisèle Halimi qui a mis fin par la suite grâce au travail qu'a fait Simone Veil. Mais Simone Veil sans Gisèle Halimi...
elle ne serait pas au Panthéon.
Voilà, parce que ne serait pas... Moi je le dis clairement, je l'ai même dit à Gisèle Halimi, sans vous, Simone Veil ne serait pas au Panthéon. Vous savez que Simone Veil suivait heure par heure le procès.
Vous allez plaider, enfin jouer, à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout un symbole, ça. Pression un peu, quand même, j'imagine.
Énorme pression. D'abord parce que je vais jouer essentiellement devant des avocats, des membres du Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai répondu oui à l'invitation du président.
Vous n'auriez pas pu dire non, franchement.
J'aurais pu... Enfin, vous savez, c'est très impressionnant quand même de faire ça. Hein, déjà, jouer le spectacle, c'est pas facile, mais le jouer devant ces gens-là, c'est particulièrement impressionnant. Donc, mais en même temps, moi, j'aime bien relever ces challenges. Donc, je suis extrêmement fier et heureux d'aller faire à la Cour européenne des droits de l'homme, d'aller, comment dire, véhiculer la pensée et les mots et la puissance des mots des avocats. Parce qu'il y a encore des pays en Europe où c'est moins évident.
Hein. Bien sûr. Plaidoirie, c'est à découvrir donc absolument au Théâtre Libre à Paris. 40 représentations exceptionnelles en tournée également. Richard Berry, c'est parti pour notre voyage dans le temps. Nous sommes en 1950, vous naissez le 31 juillet à Paris. Vos parents, Maurice Berry et Stella Valency-Lévy, sont commerçants. Vous grandissez à Paris et en région parisienne. Vous dites que sans le théâtre et sans la famille, vous auriez pu mal tourner. Pourquoi ?
Ah, j'étais un petit voyou dans la tête quand même. Hein. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de déconner. J'étais très attiré par les gens qui me donnaient l'impression que ça allait être plus facile en faisant comme ça. Voilà, bah t'as envie de quelque chose, t'as qu'à le prendre. Et pour qu'on voilà la bagarre. Je pense que j'aurais pas eu.
Mais au point de mal tourner réellement.
Oh oui, je pense oui. Ça, il suffit de peu de choses. Hein. Quand on sent que c'est à portée de main, et moi j'avais des parents qui m'ont donné une éducation, des valeurs formidables, beaucoup d'amour, et qui ont à chaque fois réussi à me remettre dans le droit chemin. Et puis, j'ai été vraiment sauvé par le théâtre. Quand on n'a pas les mots, c'est là qu'on devient violent.
Être comédien, c'est pas avoir mal tourné alors?
Ah non, je pense que c'est s'en être sorti. Voilà, j'aurais pu m'en sortir mieux en devenant avocat. Hein.
C'est ce que vos parents voulaient d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Donc c'était une sorte d'hommage en même temps.
C'est exactement ça, c'est un hommage que je leur rends. Je regrette d'ailleurs qu'ils soient partis avant d'avoir vu ce spectacle.
Richard Berry est notre invité dans le rétro. On revient dans un instant sur France Bleu.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va se télétransporter à nouveau, Richard, c'est parti. Nous sommes en 1973, vous venez d'obtenir le premier prix du conservatoire. Nous sommes là, dans le premier arrondissement de Paris. On va marcher jusqu'à cette porte du numéro 1 de la place Colette. On va ouvrir cette porte. Nous voici à la Comédie Française. Vous y resterez 7 ans. Là, vous avez vu des comportements qui ne correspondaient pas à l'idée que vous vous faisiez de ce métier. C'était quoi ces comportements ?
C'est-à-dire que la Comédie Française est régie, peut-être les mentalités ont un peu évolué depuis, hein, Dieu merci, ça fait longtemps, par un système qui est un système de fonctionnariat, donc de vote, d'élection, d'augmentation de salaire liée à des votes de camarades. Vous voyez, comme les gens restent comme ça dans ces endroits-là pendant des années, 10, 20, 30 ans, ben ça crée des comportements de fonctionnaires, mais pas dans ce que ça a de meilleur. Jouer avec des gens, avoir des partenaires qui à un moment donné vont dire bah tiens, j'ai pas aimé sa façon de me regarder ou sa façon de jouer, il sera pas augmenté à la fin du mois ou à la fin de l'année, etc., etc. Tout ça fait qu'à un moment donné, ça crée un climat qui me semble pas toujours formidable pour pouvoir jouer et s'exprimer dans notre métier. Voilà, donc je me suis pas senti très heureux, très libre
Ouais, parce que vous dites que vous étiez même malheureux à l'époque de la Comédie française, c'est super étonnant.
J'étais peut-être malheureux d'une manière générale d'ailleurs.
Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais.
Oui, c'est peut-être ça aussi. En fait, je pense que c'était pas à l'époque, en tous les cas, une maison pour moi. Quoi. C'était moi, j'avais besoin de liberté. J'ai pas envie d'être jugé par des gens dont je respectais pas forcément le talent. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, vous savez, on retrouve ça tout le temps dans notre métier. Regardez, à un moment donné, on est toujours jugé par que ce soit des critiques ou les Molières ou les prix, les choses que vous voulez.
Donc. Vous les vivez comment ces jugements au quotidien ?
Alors au début, ça me faisait du mal, ça me faisait de la peine. Maintenant, ça m'est égal. Le seul jugement qui m'intéresse, c'est celui du public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens viennent et puis qu'à la fin, ils soient heureux. Parce que c'est quand même essentiellement pour ça que je fais ce métier, c'est pour communiquer.
Et le jugement que vous avez sur vous-même, il faut qu'il soit bon aussi ?
Oui, c'est bien pour ça que je trouve que le théâtre vous oblige à ce rapport d'excellence, parce qu'il faut se dépasser. Vous savez, nous, on écrit dans l'eau. Ce qu'on a fait hier soir, vous êtes venu samedi, aujourd'hui, ça n'existe plus. Demain, il y aura 900 personnes dans la salle, et il va falloir que je fasse en sorte que voilà, je sois aussi bon, que je les convainque, qu'ils soient touchés, émus. Et pour ça, donc, je dois faire attention à moi, faire attention à mon corps, faire attention à ma voix, et donner à chaque fois le meilleur de moi-même. Donc ça élève, ça oblige à une espèce d'hygiène mentale et physique qui est indispensable.
C'est fatigant aussi parfois.
Ah, c'est épuisant, oui, c'est vrai.
À la Comédie française, vous avez appris aussi ce qu'il ne fallait surtout pas faire.
C'est très compliqué ça de dire ça comme ça. C'est des trucs de professionnels, là, vous me faites rentrer dans les détails.
Mais ça nous intéresse.
Qu'est-ce
qu'il faut pas faire ?
Il y a une façon de jouer, il y avait une façon, ça a beaucoup évolué à l'époque, c'était particulier aujourd'hui. Les acteurs sont pas du tout comme ça, ils sont très très bons dans l'ensemble, les acteurs du français sont même parfois même magnifiques hein. Il y avait un jeu en poulet
qui façonné, a plus maintenant
je sais pas, beaucoup moins en tous les cas, on est plus simple, plus vrai, mais il y avait des acteurs formidables à l'époque hein, aussi au français, attention hein.
Ouais,
moi j'ai joué avec des Jean-Paul Roussillon, des Denise Jans, il y avait des acteurs extraordinaire. Ouais.
Mais on se la raconte pas un peu quand on est à la Comédie française aussi ? Ça fait peut-être aussi partie de tout ça, non ?
Ah bah si c'est le cas, c'est affreux. C'est exactement ce qu'il faut éviter, fuir. Vous me demandiez qu'est-ce que vous avez appris qu'il fallait pas faire, bah ça, faut jamais se la raconter. Rien n'est jamais acquis à l'homme, comme disait Aragon.
On va se télétransporter, on y va. ...1974, nous sommes sur le plateau de la Gifle.
Allons-y, moteur.
Film de Claude Pinoteau avec Isabelle Adjani, Lino Ventura et Annie Girardot. C'est votre première apparition au cinéma. 4 ans plus tard, Elie Chouraki vous propose le premier rôle du film Mon premier amour. Ensuite, vous enchaînez. Vous avez du temps là ou pas ?
Là, oui, j'ai tout mon temps. Je suis avec vous.
Non, mais vous êtes sûr que vous avez du temps ? Parce
que,
à mon avis, ça m'oblige à passer au moins 1h30 avec vous pour citer à peu près les 75 films dans lesquels vous avez tourné. Sans compter les pièces de théâtre. Alors, les 3 films, pour vous, les plus emblématiques de votre carrière, ce serait lesquels ?
Ah bah ça serait bien évidemment le premier avec Elie Chouraki et Anouk Aimée. Et puis ensuite on pourrait dire qu'il y a quand même 2 films qui ont fédéré un peu ce qui s'est déclenché, c'est le Grand Pardon, un premier film populaire mais dans lequel c'était une distribution chorale, et puis après j'ai fait La Balance qui a été un énorme succès populaire et qui m'a permis de faire des films comme Une chambre en ville de Demy, et puis après voilà quelques très beaux films, et en particulier le film de Christine Pascal, Le Petit Prince à Dieppe.
Vous avez tourné pour Claude Pinoteau, Alexandre Arcadie, Jacques Demy, Claude Lelouch, Josiane Balasco, Bertrand Tavernier, Francis Weber, Tony Marshall, et vous êtes passé à l'écriture. Henri Verneuil aussi, exactement. Vous êtes passé à l'écriture aussi et à la réalisation. Pourquoi ? Parce que c'est l'envie de ne plus dépendre du désir des autres à un moment donné.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis vu sur des plateaux de films qui étaient peut-être un petit peu moins intéressants, en me disant, tiens, moi, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais pas choisi ce décor, ou les costumes, c'est pas terrible, pourquoi il fait ce plan-là, comme ça.
Mais vous faites quand même. À l'époque, vous jouez quand même, vous n'intervenez jamais, en fait.
Non, trop compliqué. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un accident de moto qui aurait pu être très grave. Je suis ressorti de l'hôpital en me disant, j'aurais pu y passer, et je n'ai toujours pas fait ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire réaliser des films. Et là, je me suis lancé là-dedans. Voilà, j'ai fait mon premier film pour ces raisons-là. Voilà.
Flippant au départ, j'imagine, quand même, il y a un enjeu, c'est pas le même que quand on est comédien.
Ah oui, c'est sûr. Il faut changer de position, quoi, complètement. D'habitude, on voit la caméra en face de soi, et là, après, il faut tout regarder, tout penser. en faisant exactement le contraire. Mais c'est extrêmement jubilatoire. C'est grisant d'abord parce qu'on peut décider des sujets qu'on va traiter. Et puis après, on décide de tout. On est Dieu.
C'est plus grisant que d'être acteur ?
Franchement, oui.
Pour les comédiens, il y a les tournages, les pièces et le chômage aussi. Je crois qu'au début, vous aviez toujours peur de ne pas retrouver de rôle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, quand vous ne travaillez pas, vous avez cette angoisse ?
Non.
Parce que
au
Richard Berry,
ce serait plutôt le contraire.
Parce que grande carrière, Richard Berry, oui. C'est ça ?
Oui, mais il y a, vous savez, cette angoisse dont vous parlez, je l'ai eue pendant longtemps. Hein. Je connais pas un acteur qui a pas, à un moment donné, derrière sa tête, comme ça, cette petite peur. Puis à un moment donné, ça se calme, ça s'apaise. Et puis, au bout d'un moment, ça disparaît. Parce que,
quand on devient un acteur bankable, par exemple.
Oui, mais c'est même pas la question. C'est la question qu'à un moment donné, on a bien compris qu'on aura toujours quelque chose à faire. Mais par exemple, il y a des périodes, là, par exemple, je tourne pas. Hein, ça fait... Mais parce que je suis beaucoup au théâtre et que j'ai pas trop le temps. Mais en même temps, bah, comme
vous
j'ai pas trop le temps,
choses.
On m'en propose beaucoup moins des films.
Ouais.
Mais aussi, je sais pourquoi. C'est parce que je réalise et que les gens me voient beaucoup plus maintenant comme metteur en scène au cinéma. Donc, je comprends. Mais en même temps, voilà, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé faire peut-être un ou deux films qu'on
me
propose ces
derniers temps. Mais ouais, mais ça, du coup, ça fait pas peur quand même ?
Non. Et puis là, je vais réaliser mon prochain film, vous voyez, au printemps prochain. Donc, voilà.
Richard Berry, on va revenir dans un instant sur France Bleu pour la suite de notre voyage dans le rétro.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Richard Berry, c'est le cinéma, le théâtre, des séries télé, une courte expérience aussi dans la chanson. Et puis vous êtes parrain de l'AIRG, l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Votre petite sœur a le syndrome d'Alport, c'est une maladie qui provoque un mauvais fonctionnement des reins. Pas de traitement possible, vous lui avez sauvé la vie en lui donnant un rein. Vous expliquez, je me suis débarrassée d'une certaine culpabilité du bien portant. Celui qui a tous ses moyens physiques face à une sœur handicapée depuis la naissance. S'il n'y avait pas eu cette greffe, vous vous seriez senti coupable toute votre vie ?
Ah bah oui, je pense. Déjà que j'ai quand même une fâcheuse tendance à me sentir coupable tout le temps, de tout. Là, c'était terrible parce que, vous savez, on a à peine un an et demi de différence. On a grandi ensemble et je l'ai toujours vue souffrante, essoufflée, ne pouvant pas vivre la même jeunesse avec la même activité que moi. Puis ensuite, l'adolescence. Et quand ma mère lui a donné un rein, il y a de cela
en 70.
Maintenant, voilà, donc très longtemps, elle lui a déjà permis de vivre autrement, pendant près de 30 ans. Et ensuite, quand ce rein s'est mis en rejet chronique et n'a plus fonctionné, pour moi, c'était évident de le faire à mon tour.
Marie a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Le don de soi ». Alors, c'est marrant parce que vous vous sentez... coupable à l'époque où elle est handicapée par ce problème-là. Et elle était coupable aussi, elle se sentait coupable. Elle dit, j'ai pris le rein de ma mère, celui de mon frère, comment ne pas me sentir coupable ?
Bah oui, c'est normal,
je la
comprends. Vous savez, moi j'ai même rencontré des gens qui voulaient parler avec moi parce qu'ils connaissaient mon expérience à travers ce don d'organes et qui me disaient, une jeune femme qui était souffrante, et qui était avec sa sœur, elle me disait, moi je ne veux pas que ma sœur me donne un rein, je pourrais pas vivre, ça serait terrible, l'idée de l'handicaper, comme ça, etc. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui veulent pas donner un rein, parce que ça leur fait peur, et je peux le comprendre. Donc à un moment donné, c'est pas aussi évident que ça. Alors je suis content parce que la personne dont je vous ai parlé, ça y est, elle a fini par accepter que sa sœur lui donne un rein, et elle est maintenant sauvée, et elle vit mieux.
Et comment on rassure sa sœur quand elle se sent coupable ?
Bon,
J'ai
essayé de faire en sorte de lui montrer que c'était... rien, qu'on vivait bien avec un seul rein, lui rappeler que ma mère a bien vécu avec un seul rein, que c'est une expérience qui est très vieille, c'est parmi peut-être les plus vieilles qu'on ait en chirurgie, vous savez, la néphrectomie, pendant la guerre de 14, il y avait beaucoup de soldats qui avaient été blessés, qui avaient reçu des éclats d'obus et à qui on retirait un rein. Donc c'était les bien portants à qui on avait enlevé un rein et qui ont vécu très bien. Donc on a pu observer que vivre avec un rein, c'était pas du tout un handicap. Donc c'est ça que j'essayais de lui dire, bien que franchement, moi de mon côté, ça me faisait flipper quand même.
C'est vrai ? Pourquoi ça vous faisait flipper ?
Ah bah parce que, vous savez, quand vous faites cette démarche, d'abord avant de vous prélever un rein, vous faites des analyses pour savoir si vous êtes en bonne santé et pour savoir si vous allez pouvoir vivre bien sans handicap avec un rein. Donc c'est des analyses qui s'étalent sur vraiment 6 mois, 7 mois de tout votre corps. Et à la fin desquelles, on vous dit, vous êtes en parfaite santé. Allez vous faire opérer. Et c'est là la difficulté, c'est que vous allez vous faire opérer alors que vous êtes en parfaite santé. Et là, vous avez peur. Vous signez quand même devant le juge qui vous demande, franchement, mais vraiment avec ces mots-là, hein, je les invente pas, je dramatise pas, est-ce que vous acceptez l'idée que vous pouvez mourir ? Bah, vous devez répondre oui ou non. Oui, et donc là, tout d'un coup, tu signes le papier, tu ressors, et après, là, il y a quand même des moments terribles, quand même.
Ces moments terribles, juste après, quand vous sortez de cet endroit, qu'on vous dit ça ? Est-ce qu'il y a une remise en question ? Est-ce qu'on se dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?
Je le ferai. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je l'aurais fait. Mais c'est la peur. Peur d'y passer, de pas se réveiller, Et je me dis, ça va, j'ai dit oui, j'y vais.
Et puis après, soulagement, finalement.
Un soulagement de savoir que ça s'était bien passé pour elle, oui, bien sûr. Mais vous savez, je soutiens la IRG, je soutiens aussi une autre association qui s'appelle la Fondation du Rhin, qui est vraiment extrêmement aussi importante, et une autre association qui s'appelle Enfance Majuscule, qui s'occupe des enfants maltraités. Non.
Nous sommes à l'Olympia en 1972.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour.
Léo Ferré, Avec le temps, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette chanson ?
Pour moi, c'est la plus belle chanson qui ait jamais été écrite. Et il se trouve que j'ai eu la chance de le voir, moi, Léo Ferré, en scène, sans bouger, sous une poursuite. Et c'est tout. Il n'y a aucun autre effet. Juste Léo Ferré qui chante. Et là, je me suis dit, c'est quand même très fort. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Le seul spectacle, c'est lui qui chante.
Mais c'est ce qu'on peut dire aussi de vous dans Plaidoirie.
Ah bah écoutez, c'est très flatteur. Mais moi, il y a des vidéos, il y a des...
C'est vrai, c'est très bien fait. Mise en scène très bien faite.
Éric Théobald, remarquable metteur en scène.
Nous sommes au Théâtre Libre à Paris, à la fin de la représentation de Plaidoirie. Le public est conquis, il se lève et applaudit. Vous vous tenez seul, face à lui. À quoi ou à qui vous pensez à ce moment-là ?
Alors là, samedi, en particulier, quand vous étiez là, j'ai beaucoup d'émotions parce que je pense beaucoup à mon père et à ma mère qui auraient rêvé voir ce spectacle. Et puis, ce soir-là, il y avait ma femme dans la salle, donc je la voyais. Et puis, je pense à mon frère qui vient de partir. Et je me dis, il n'a pas eu le temps de venir voir ce spectacle. Et je pense à mes êtres chers. Et j'espère que quelque part là-haut, il se passe quelque chose, bien que j'ai du mal à y croire. Mais...
Ah ouais?
Ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que quand on est mort, quoi, voilà.
Ah, vous pensez qu'il n'y a plus rien après ?
Non.
Ça fait peur ?
Ouais.
Alors que c'est rassurant de se dire que il y a peut-être quelqu'un qui veille sur nous, qui nous protège, qui regarde tout ce qui se passe, qui voit tout ce qui se passe.
Ouais, moi je pense que nos morts sont dans nos cœurs, dans nos têtes. Mais eux, non.
Merci Richard Berry.
Merci à vous.
Richard Berry dans la peau de 5 grands ténors du barreau qui ont fait changer les mentalités. C'est dans Plaidoirie au Théâtre Libre à Paris, mais aussi à Argentan, Biarritz, Saint-Dié-des-Vosges. Une interprétation brillante, puissante et d'une justesse troublante. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Robert Badinter disait « plaider c'est bander ». Convaincre, c'est jouir. Richard Berry, vous nous avez convaincus. Vous pouvez donc jouir de ce succès. Merci à vous tous d'avoir partagé cette émission avec nous. Replay podcast sur francebleu.fr. À la semaine prochaine. Salut.